Voici la main verte d'Alain Baraton. Bonjour mon cher Alain.
Bonjour mon cher Eric, bonjour à tous.
Alors voici un nom étrange pour un arbuste, l'arbre à perruque.
Eh oui, avant de vous expliquer pourquoi il est ainsi nommé, petite description de la plante qui, il est bon de le savoir, n'est pas un arbre mais un gros arbuste qui peut, adulte, atteindre les 6 mètres de hauteur. Ses feuilles sont caduques, ovales et deviennent rouges au tout début du printemps, verdissent en été et reprennent à l'automne de magnifiques teintes cuivrées. L'arbre à perruque s'appelle ainsi, donc je réponds à votre question, car il produit en été des inflorescences en panicules, à savoir des fleurs le plus souvent roses, rouges ou jaunes pâles, et elles sont disposées en grappes de fleurs, je l'ai bien dit, en grappes de fleurs, qui ressemblent effectivement à des perruques, d'où le nom d'arbre à perruque.
Et de quelle région du monde est originaire cet arbuste?
Le Cotinus cogidria, c'est son nom botanique, est présent un peu partout sur la planète et il est visible depuis la nuit des temps, en Europe du Sud, en Asie et en particulier en Chine.
Alors son bois est précieux et notamment pour les luthiers.
Il est certainement l'un des bois les plus beaux quand il est bien évidemment entreposé et séché dans les règles de l'art. Il est à l'origine de couleur blanche et il se teinte de rouge et se marbre merveilleusement en séchant. Sa dureté serait parfaite en ébénisterie et il est idéal pour les instruments de musique. Son bois renferme aussi un colorant, la fustine, ce qui explique pourquoi l'arbre aux perruques est appelé fusté.
Oui, et ce colorant est d'ailleurs employé en Chine comme collagogue, ça mérite quelques explications.
Oui, collagogue, j'ai été vérifié dans le dictionnaire et cela désigne, c'est un terme utilisé pour qualifier des substances qui facilitent l'évacuation de la bile. Tout ça n'est pas très gai, j'en conviens. La fustine serait aussi efficace pour lutter contre la fièvre et toutes les maladies des yeux. Les racines et l'écorce posséderaient enfin des vertus médicinales et seraient efficaces, mais j'emploie bien sur le conditionnel, pour soigner les fièvres.
Pour vérifier les sources, vous avez raison.
Oui, oui, oui.
L'arbre à perruque est aussi très apprécié pour le tannage des peaux.
Oui, là je l'affirme par contre, et parce que la plante est très riche en tanins, utile pour donner de la couleur jaune, orange ou brune à la laine et au cuir. Dernière précision, pour être presque complet, l'huile essentielle d'arbre à perruque serait, encore au conditionnel, tonique et stimulante. Alors, n'étant pas médecin, vous remarquerez vraiment toujours le conditionnel, mais ce que je peux affirmer, c'est que cette plante est belle, qu'elle est originale, et que sa simplicité de culture devrait logiquement nous encourager à en planter davantage dans les jardins.
Vous avez envie de tousser, vous voulez boire
Non,
je sentais que c'était limite.
Je regardais Patricia, l'émotion, la voix qui se saisit.
Une allergie peut-être?
Ah, pas du tout, non, absolument pas.
Tant mieux.
C'est pour rire. Alain Baraton, vos conseils et vos réponses aux conseils aux demandes des auditeurs. Denis, par exemple, vous demande s'il est opportun de couper en ce moment les fleurs de l'Arrogia cirrusifera pour éviter aux insectes pollinisateurs d'être piégés.
Ah oui, c'est une drôle de plante que celle-ci, qui produit des fleurs qui vont tuer les insectes. Et alors, c'est pas une plante carnivore, elle les tue pas par sadisme. Alors, j'exagère peut-être parce que les plantes sont pas sadiques.
On mettra ça entre guillemets, la fleur sadique, pas sûr.
Oui, non, mais alors pourquoi les tue-t-elle? Vu qu'elle n'utilise pas le corps de l'insecte pour se nourrir. La plante carnivore attire des petites bestioles, les emprisonne, et la décomposition du corps de l'insecte va dégager des substances assimilables par le végétal.
Donc c'est utile.
Elle va donc s'en nourrir. C'est la raison. Les plantes carnivores vivent généralement là où il n'y a pas de terre, où elles ont vraiment besoin d'attraper ce qu'il y a dans l'air.
Protéines.
Là, cette plante grimpante qui est magnifique, qu'on appelle également, qui vient du Pérou, je lis ma petite fiche, et qu'on appelle dans le sud de la France parfois capoc, eh bien, elle emprisonne les insectes, elle les tue vraiment. Elle ne les utilise pas. C'est donc peut-être j'ai peut-être découvert une plante salique ce matin.
Voilà.
Alors, faut-il maintenant couper les fleurs?
On la coupe ou
alors,
pas?
Alors, écoutez, j'en sais rien parce que je pense que si Dame Nature a doté cette fleur de ce pouvoir, ce n'est pas pour rien. D'un autre côté, elle est originaire du Pérou, donc chez nous, a-t-elle vraiment sa raison d'être? C'est une question à laquelle j'ai du mal à répondre.
Romain vous demande, Alain, puis-je planter en ce moment dans le potager de l'ail et des échalotes?
Oui, là j'en suis sûr et certain. On peut même les planter en février, mars, il n'y a aucun problème. J'en profite pour rappeler que tout ce qui est ail, oignon, échalote ne demande pas de terre fertile, bien au contraire. Arrêtez de mettre du fumier, des engrais pour tous ces légumes. Ils se contentent de pas grand-chose. J'en profite également pour rappeler que le froid apparemment est de retour. Alors, attention, on cesse de produire certains légumes un petit peu trop fragiles, on sort les bons vieux châssis, on ressort les paillassons avec la paille, les feuilles, ce genre de choses, mais donc on commence à se prémunir du gel qui risque de faire quelques dégâts dans le jardin.
Charlotte n'arrive jamais à faire fleurir les gardénias, elle vous demande pourquoi.
Ah, le gardénia est une très jolie plante qui ne supporte pas la sécheresse de l'atmosphère. Si le gardénia dans votre intérieur ne fleurit pas, c'est tout simplement que le chauffage urbain, sa proximité près d'une fenêtre, fait que l'environnement lui est trop sec. Il vous suffit simplement de prendre un bon vieux pulvérisateur tous les jours, de faire pchit-pchit sur la plante et elle fleurira. Vous verrez, alors c'est une plante très très belle qui fleurit le plus souvent blanc et qui est d'une blancheur, d'une pureté absolument rarissime. Très très jolie plante.
Claude, je pense qu'il est à Oléron. Je suis parti à la chasse aux taupes qui semblent avoir pris refuge proche de mes hortensias. Y a-t-il une incidence?
Eh bien pourquoi pas
sur la mauvaise santé de cette plante.
Pourquoi pas, parce qu'il y a, je ne sais pas s'il y a des taupes à Oléron, parce qu'il n'y a pas de taupes sur l'île Dorée. Par contre, j'en profite. Bon. À ça, j'en suis absolument certain. Et il est vrai que la taupe, parfois, peut créer des dégâts auxquels on ne pense pas. La taupe est un insectivore. Elle ne mange pas les racines, mais elle a besoin de se déplacer et elle fait des galeries. Et comme vous le savez, elle ne voit pas très clair. Elle va en ligne droite. Et si, effectivement, il y a des racines, elle les coupe. Pour que ces galeries permettent d'accueillir une famille complète. Eh oui, et la taupe, de temps en temps, rencontre la
famille.
Sœur. Ouais. Ça, c'est extraordinaire. Vous imaginez que Monsieur Taupe, un jour, a envie de faire des petits. Il va creuser jusqu'à trouver une dame taupe pour qu'ils puissent s'unir. Ils prennent une pelle, ils creusent parfois 30, 40, 50 mètres avant de se retrouver. Ça, c'est l'amour.
La taupe prend une pelle. On est content de le savoir.
Oui, elle peut. Oh, j'ai bien pris, moi, des râteaux en étant jardinier, oui. Et donc, effectivement, si le nid de la taupe se fait au pied de l'hortensia, il peut y avoir une quantité de racines endommagées et se cela peut être la cause, effectivement, du dépérissement de la plante.
Ok Alain, et souvenir d'Oléron donc. Oui. Une balade pour le week-end.
Eh oui, au château du Rivaux, c'est à Lémeret, c'est entre Azay-le-Rideau et Ciry-Richelieu en Indre-et-Loire. C'est tout simplement le festival d'automne, aujourd'hui et demain, l'occasion de participer à des ateliers, de rencontrer des professionnels, en un mot, de prendre du bon temps, donc... Château du Rivaux, Lémeret, entre Azay-le-Rideau et Richelieu, en Indre-et-Loire.
Et ça, prendre du bon temps, c'est votre dada.
Oui.
Alain Baraton, merci et à demain.
À demain.